jour, de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
Pourquoi ça nous touche?
Caroline Lechowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs et auditrices, avec Hugo Violas à la réalisation, pour nous interroger sur la place du bureau dans nos vies. Oui, le bureau, ce meuble derrière lequel on s'assoit pour travailler, mais aussi le lieu même du travail sédentaire. Ce bureau où nous passons, où nous passions nos vies, jusqu'à ce que le télétravail, rendu possible par le numérique et même nécessaire par la pandémie, ne vienne peut-être annoncer la fin du bureau. Qu'est-ce que ce bureau, tous ces bureaux et même cette bureaucratie disent de nous? Quand et comment nous sommes-nous assis ou laissés asseoir devant un bureau? Autant de questions ouvertes et creusées par notre invité, l'ethnologue Pascal Diby, qui après avoir fait l'ethnologie de la porte et même celle de la chambre à coucher, nous propose aujourd'hui une ethnologie du bureau autour de la question pourquoi, quand et comment l'humanité s'est-elle mise au bureau? Bienvenue.
Le bureau, c'est sympa. Il y a des hommes, des femmes, des beaux, des moches, des bons, des nuls, des méchants et des gentils, comme dans la vie, quoi.
Et voilà, c'était la vie de bureau, version série radio-télévisée de la radio-télévision suisse romande. Bonjour Pascal Diby.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager votre ethnologie du bureau, sous-titré « Brève histoire d'une humanité assise » qui vient de paraître aux éditions Métayer et dont nous avons, chers amis auditeurs et auditrices qui êtes loin d'ici, un exemplaire à vous faire gagner. Que vous nous écoutiez depuis votre bureau assis ou allongé. En tout cas, c'est avec à votre bureau, Pascal Diby, après moult recherches et enquêtes, que vous avez écrit cette ethnologie du bureau avant le confinement. Hein. Il faut le préciser, dans la lignée de vos précédents travaux et ouvrages, on peut citer ethnologie de la porte, ethnologie de la chambre à coucher. Vous nous invitez donc cette fois à nous regarder nous-mêmes dans une de nos occupations favorites, ou en tout cas les plus répandues, être au bureau. Alors comment en sommes-nous arrivés là, à passer nos vies assis au bureau, devant ou derrière? Qu'est-ce que ça dit de nous et de notre bureaucratie? Jusqu'à quand y resterons-nous au bureau? La question se pose évidemment de plus en plus aujourd'hui avec le télétravail. On va y revenir, mais d'abord, comment et pourquoi? Pascal Diby, je rappelle que vous êtes ethnologue, professeur des universités. Comment avez-vous eu l'idée de faire cette ethnologie du bureau?
En fait, moi, je m'intéresse à la banalité du quotidien, c'est-à-dire à ce qui fait le sel de nos vies à chacun, c'est-à-dire pas grand-chose et énormément. Et je pense qu'une des caractéristiques les plus remarquables de notre humanité, au sens humain du terme, c'est qu'en fait, on arrive à tirer de tout ce que l'on fait des choses absolument incroyablement complexes. Et finalement, on croit qu'on fait des choses banales, qu'elles sont juste comme ça de passage. Et en fait, ces choses-là sont des choses qui ont été installées, que nous avons installées, que nous avons nourries aussi de notre imaginaire. Et j'ai pensé que le bureau, qui était quand même une grande part de notre activité, puisque maintenant le tertiaire prime sur l'ensemble de la production en ce qui concerne les biens, était quelque chose qui était très important. Alors j'ai tiré le fil tout doucement, comme disait mon vieux maître Audricourt, n'importe quel objet, si vous l'étudiez correctement, toute la société vient avec.
Et là, pour le bureau, c'est flagrant. Enfin, ce fil du bureau, il est insensé, parce qu'il y a le bureau meuble, le bureau, le lieu où on va travailler, rendre des comptes devant le bureau. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis au bureau? Arrive toute l'évolution de la société, la libération de la femme aussi, quand les femmes arrivent au bureau. Il y a tout, tout.
Mais oui, mais c'est récent. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est que le bureau n'existe pas depuis 10 000 ans.
Brève histoire, d'une humanité assise.
Absolument. C'est-à-dire que le fait qu'on soit mis en ordre de marche assis, si je puis dire, c'est quelque chose qui remonte quand même à la fin du 17e, vraiment au début du 18e, 19e, 20e. Et la question aujourd'hui est de savoir si le bureau va continuer à exister.
Et oui,
ou est-ce qu'on n'est pas dans le champ du signe du bureau?
Le champ du signe, c'est-à-dire la fin du bureau,
voilà.
L'aube de la fin du bureau.
Voilà.
Alors, il y a beaucoup de questions d'auditeurs, notamment sur nos réseaux sociaux, à ce sujet, et notamment aussi en lien avec le confinement qui a un peu accéléré les choses. On y reviendra, je vous en cite simplement une qui résume un peu tout. Elle est signée Maurice au Bénin. Le modèle bureaucratique a souffert de la crise sanitaire actuelle. Est-ce le début de la fin du bureau ou est-ce le début d'une nouvelle dynamique?
C'est peut-être le début d'une nouvelle dynamique. En tout cas, c'est le début d'un changement radical dans notre relation au travail, à notre façon de travailler et à nos lieux de travail. C'est-à-dire que là aussi, il faut se rendre compte que la miniaturisation du bureau, puisque c'est de ça dont il s'agit finalement, qui n'est plus inscrit dans une spatialité, mais qui est inscrit dans un portable, pour reprendre le terme, fait qu'aujourd'hui, on peut travailler pour quelqu'un ou pour soi d'ailleurs, n'importe où, n'importe comment et d'où on veut.
Pour le meilleur ou pour le pire, on verra bien. Mais d'abord, on va remonter le temps, effectivement. Et le fil de cette brève histoire, enfin, pas si brève que ça, tout de même, d'une humanité assise au bureau. Alors, vous l'avez dit, ça, c'est déjà depuis plus de 3 siècles. Mais même avant, comme nous le rappelle tout de suite, le géohistorien Christian Grataloup.
Moi, je pense au scribe accroupi. Il me semble qu'il fait un travail de bureau, ce monsieur. Typiquement, c'était vraiment le scribe est par définition un bureaulier, comme on dit dans Le Père Noël est une ordure. C'est quelqu'un donc qui travaille assis, mais non, il a les jambes croisées, il est accroupi et il a une planche sur une position qui, si on y est entraîné, doit être tout à fait effective et efficace. On peut penser à un scribe japonais qui serait à genoux devant une table, effectivement, mais lui, il est assis sur le sol, à genoux, et la chaise peut être aussi, alors en Chine, elle serait plus ou moins haute par rapport à la nôtre, mais ces gens ont le pinceau à la main pour faire un travail sur rouleau, qui est aussi un travail de bureau, puisque Dieu sait si les mandarins, ou leurs équivalents japonais, ont un travail tout à fait de bureaucrate. Donc, le bureau, pour travailler, pour écrire, puisque c'est à partir de toutes les sociétés où une écriture, c'est une chose universelle, mais il faudrait tenir compte des sociétés sans écriture aussi, donc pour les griots, cette fois-ci, comment on a effectivement plus ou moins imposé cette norme du bureau, chaise. Et c'est vrai que spontanément pour moi, un domicile, un lieu de vie, c'est un bureau avec des pièces autour. Donc c'est peut-être le travers d'un intellectuel.
Vous voulez réagir, Pascal Dibi, à cet éclairage donc, du géohistorien Christian Grataloup, qui en bon intellectuel ne voit pas son domicile, un bureau et quelque chose autour, mais qui, effectivement, comment est-ce qu'on a imposé cette norme chaise et bureau, quid des sociétés sans écriture? Vous citez d'ailleurs tous ces scribes accroupis, tous ces scribes assis, vous citez toute la généalogie.
Oui, depuis l'Égypte, etc.
Depuis l'Égypte, avant le fait qu'on s'assoie au bureau.
Oui. Oui, parce qu'en fait, il a fallu aussi forger les instruments d'écriture, les instruments de conservation, les instruments d'archivage, les instruments de communication. Et dans le fond, le bureau, c'est un peu ça. C'est une chaîne qui permet de faire l'entre-deux entre la vente et la réception, l'endroit où on va inscrire les choses. Donc, on est dans un archivage. S'il y a un bureau, c'est qu'il y a l'archivage d'une façon ou d'une autre.
Ah, c'est lié, automatiquement.
Ah, ben oui, automatiquement, puisque si vous vendez même des ostracas, des bouts de pierre en Égypte inscrites, etc. Vous les comptez, vous savez où elles sont, vous savez comment on les range, vous savez qui les a écrites, vous savez pourquoi elles ont été écrites. On a fait des contrats tout au long de notre vie et je suppose que dans les époques lointaines, il y avait une façon aussi de monnayer les choses et de les inscrire effectivement, que ce soit avec l'utilisation de coris, de métal, de pierres précieuses, tout ce qu'on veut. À chaque fois, on faisait des échanges et en fait, c'était pour des biens. Et c'est là justement où le bureau a commencé à s'installer. C'est plus les biens se sont, développés, plus la possibilité effectivement d'engranger s'est mise en place. Eh bien, il a fallu la possibilité de pouvoir compter les choses et les marquer et les conserver et dire effectivement où elles se trouvaient et comment on allait y accéder d'une certaine façon.
Donc le bureau, on l'a bien vu, c'est à la fois le meuble, c'est à la fois un lieu, c'est aussi pour qu'il y ait bureau, il faut qu'il y ait écriture, il faut qu'il y ait compte. Il faut qu'il y ait commerce, il faut qu'il y ait tout ce qui fait notre société.
En ce qui concerne le bureau, pour le meuble, c'est très tardif, si je puis dire, parce que déjà le terme bureau, les gens le savent, mais enfin ça vient de la bure. C'est-à-dire de ce tissu épais qu'on mettait sur une table de façon à ce que les choses importantes, notamment l'argent que l'on comptait sur la table, ne fassent pas de bruit et qu'on puisse pas entendre les gens compter leur argent. Et c'était aussi une époque où les livres étaient extrêmement précieux. Il y en avait très peu. C'était pas des livres édités, c'était des livres, des œuvres d'art. Et pour les poser là aussi sur la table, on mettait une bure suffisamment épaisse pour que le livre ne s'abîme pas. Donc petit à petit, cette nappe est devenu effectivement le symbole du bureau. Il a fini par donner le nom de bureau, qui est cette table qui porte la bure. Et ça, c'est pas très ancien, c'est 1300, enfin au 14e siècle en gros.
Et ensuite, de bureau a dérivé aussi la bureaucratie, parce
absolument.
Que ça va tout à fait avec.
Oui. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. C'est quand le bureau a été mis en marche. D'abord, le terme de bureau n'était pas utilisé pour dénommer une pièce où l'on travaillait spécifiquement. C'était plutôt des cabinets. Et jusqu'à Louis XIV, la mise en place, effectivement, ce qu'on appelle les ailes de ministère au bout de Versailles, c'est les premiers bureaux qu'on a constatés. Alors, c'est amusant parce que, justement, le bureau a d'abord été un objet symbole, mais un objet d'art. Vous connaissez Boulle, la fameuse école Boulle à Paris. Boulle était soi-disant le grand ébéniste de Louis XIV. Alors pourquoi ébéniste ? Parce qu'il utilisait de l'ébène, donc un très beau bois, pour faire des objets d'art, et notamment le bureau. Mais le bureau du roi n'est pas celui de Louis XIV, c'est celui de Louis XV, donc qui est arrivé plus tard et considéré comme un chef-d'œuvre absolu de la technologie. C'est un bureau à cylindre qui marche pratiquement tout seul et qu'on a récupéré finalement et qu'on montre encore à Versailles aujourd'hui. Voilà pour le meuble, qui n'a pratiquement pas évolué, je dirais, jusque dans les années 60, 50-60, où en fait, le bureau
dans
a été...
Dans les années 1900,
pardon.
Ah,
oui,
on a fait un grand saut de
50-60. Oui, de 1760 à 1960, ou dans ces années-là, où là, les designers sont entrés en piste. Et à ce moment-là, le bureau est redevenu un objet qui n'était pas uniquement utilitaire, mais qui allait devenir un objet éventuellement d'art.
Alors, avant d'en arriver là, à notre siècle, il y a quand même eu une sorte, comment dire, d'âge d'or du bureau et de la bureaucratie en Occident. En tout cas, c'est au 19e siècle. Le bureau prend toute sa place autour de la question comment l'humanité s'est mise au bureau. Allez, piste de réflexion tirée dans cet extrait du film « Messieurs les ronds de cuir
».
Adaptation au cinéma du roman de Courteline, écrit en 1891 avec Pierre Brasseur, Noël Noël et Poiret et Serrault, sorti en 1959, un vrai morceau d'anthologie ou d'ethnologie du bureau.
Monsieur le directeur, j'ai dans mon service un expéditionnaire du nom de Larrier.
Oh, quel employé charmant. Il ne vient pas m'ennuyer pour de l'avancement, celui-là. Je ne le vois jamais.
Je vous entends bien, monsieur le directeur, mais moi non plus, justement, je ne le vois jamais.
Il est malade.
Pensez-vous, il préfère courir les brasseries plutôt que venir au bureau, c'est tout.
Et alors ?
Alors, monsieur le directeur, je me permets de vous demander sa révocation.
Mais pour révoquer un fonctionnaire, il faut un motif.
Et ne jamais venir au bureau, ce n'est pas un motif suffisant.
Est-il socialiste ? Non. Est-il monarchiste ?
Non plus.
Alors qu'est-ce que vous pouvez bien avoir à lui reprocher ?
Tout est dit ou presque sur cette vie de bureau, cette vie bureaucratique, cette vie de fonctionnaire, inventée, on peut le dire, quoi, 19e siècle,
oui,
par nos sociétés modernes.
Je dirais le bureau, c'est le 19e. Enfin, l'image qu'on a, nous, du bureau, c'est à travers Balzac, c'est à travers, effectivement, Courteline et autres, etc. Et là, on a vraiment
des
personnages qui étaient dans leur jus, dans leur crasse et dans leur bonheur absolu d'éviter tout travail. Parce que là aussi, c'est intéressant, c'est
ça,
l'idée
hein,
du
oui.
travail qui est mise en question.
Mais oui.
Et la première idée du bureau, quand on a pensé effectivement que les gens allaient cesser d'aller à l'usine et aller passer dans un bureau, il faut se rendre compte que c'était d'un seul coup une élévation absolue dans la société.
C'est les cols blancs. Hein.
C'est les cols blancs. On est passé du col bleu au col blanc et on a cru. Alors, c'est assez amusant parce que du côté, je dirais, du socialisme, on a pensé que le prolétariat allait changer, aller passer de l'usine au bureau. Et c'est pas ça qui s'est passé, parce que finalement, c'est pas passé dans les gènes, si je puis dire, du bureaucrate. Le prolétariat est resté dans l'usine et le bureau n'est pas devenu un espace de prolétarisation. Au contraire, ça a été une mise en place d'une classe moyenne qui, petit à petit, va se développer et va finir par imposer sa mode, par imposer son système. Et il faut se rendre compte que c'est la première fois qu'on va commencer à travailler non plus uniquement pour manger et mettre un peu de pain dans sa soupe, mais pour avoir des loisirs. Donc là aussi, les choses se changent radicalement. C'est qu'on attend le week-end pour aller se promener sur les grands boulevards. La semaine, on se promène sur les Champs-Élysées quand on fuit le bureau. On laisse son chapeau sur la table pour montrer qu'on est passé. Et à ce moment-là, on n'a rien à dire puisque la personne est passée. Et cette ruse-là, elle a toujours existé, elle existe encore. Hein, le coup de la veste ou du veston sur le dos de la chaise.
Pour dire qu'on est là, mais on va faire autre chose.
Pour dire qu'on est là, mais qu'on était occupé, qu'on était dans une partie.
Parce que aussi derrière le bureau, et vous avez une lecture enfin, extraordinaire parce qu'elle est à la fois sociologique, économique, même politique. On y reviendra de cette puissance des assis hein, au bureau, mais aussi du bureau comme une sorte de formatage. Alors, vous dites, dès le plus jeune âge, à l'école, hein, on est derrière un bureau, assis sur sa chaise. C'est une forme de formatage, quand même.
Bah, c'est vraiment un formatage du squelette, au moins. Si ce n'est pas psychologique, ça va le devenir. Mais il faut se rendre compte ce que ça veut dire que de s'asseoir pendant 7 heures, 8 heures par jour, plié en quatre, toutes les jointures courbées, pliées derrière un pupitre. Et en fait, quand on... Alors notre génération, parce que la génération qui vient est beaucoup plus cool, si je puis dire, la coolitude est passée par là, mais notre génration...
Mais on est plutôt avachi sur son siège.
Hein. Oui, on a plutôt été inscrit dans une discipline absolument terrible du pupitre. Et moi, je me souviens, toute ma scolarité, je dirais, dans le primaire, ça a été ça, nous apprendre à être au bureau. Donc, il faut se rendre compte qu'après, au bureau, les gens ne vont pas passer 5 heures. Ils passent 11, 12, 13, 14 heures par jour au bureau.
Assis au bureau.
Assis au bureau avec de mauvaises lampes, avec de mauvaises conditions. Donc, il y a quelque chose aussi qui fait qu'une culture se forme avec, là aussi, ces grades naturels du haut vers le bas ou du bas vers le haut, mais qui font que ça va du saute-ruisseau jusqu'au...
Saute-ruisseau.
Oui, le saute-ruisseau, c'était le petit personnage qui était chargé de transporter les plis où, qui étaient urgents d'un endroit à l'autre dans la ville, notamment Paris, qui était très sale.
Et le coursier de l'époque.
C'était le coursier de l'époque, voilà, exactement. Il y en a des milliers de coursiers aujourd'hui à Paris. Mais maintenant, ils sont en moto ou en vélo et considérés relativement correctement. Mais il faut savoir ce que c'était qu'être saute-ruisseau à l'époque de Victor Hugo.
Vous parlez aussi beaucoup, évidemment, de la puissance des assis, de cette invention qui existe ailleurs aussi, mais de la bureaucratie, des fonctionnaires. Enfin, le bureau, c'est aussi la bureaucratie. Hein.
Alors justement, la puissance des assis, c'est que ça veut dire quelque chose d'être assis. C'est qu'on est assis à l'imitation du roi. Et le roi lui-même était assis sur le trône à l'imitation de Dieu. Donc, à chaque fois, on a quelque chose qui va beaucoup plus loin dans la symbolisation, si vous voulez, de l'expression du pouvoir. Et qu'on est, d'une certaine façon, presque divinement fonctionnaire, divinement employé de bureau, dans le sens où celui qui a pu effectivement accéder à ce fauteuil, et d'ailleurs on dit toujours, on dit souvent, on lui a donné un fauteuil à l'Académie française ou un siège, tenir un siège, pas un siège de ville, mais je veux dire un siège au sens savoir obtenir un siège
être
à l'Assemblée, être élu, etc. On est toujours en train de faire référence à ça. Et alors ce qui m'amuse, c'est qu'à la fois c'est une sorte d'expression, comment est-ce que je pourrais dire, de prothèse. Le corps est soutenu. Vous vous rendez compte que des êtres assis peuvent lever les pieds du sol sans tomber. Je dis ça parce que ça donne une certaine puissance. À l'inverse de ceux qui vivent en tailleur ou qui sont assis avec les fesses sur les sur les genoux, enfin sur le talon, etc. Et il y a des milliards de gens qui vivent comme ça. Et où la bureaucratie ou la façon de recevoir et la façon polie, c'est celle-là. Donc là aussi, à l'imitation occidentale, on a développé la chaise petit trône pour les plus puissants. Et toute l'histoire autour de ça est absolument formidable parce que ça rejoint l'histoire de la royauté, etc. Et celui qui a un fauteuil dans un bureau est un petit roi.
Un petit roi, petit roi qui en plus souvent fait du commerce. C'est aussi à l'image de nos sociétés modernes, du travail sédentaire, du travail tertiaire, du capitalisme aussi. Enfin, tout ça, c'est vraiment notre histoire symbolisée par cette chaise, ce petit trône devant un bureau.
Alors, c'est notre histoire et c'est une histoire qui est exclusive. C'est-à-dire que c'est une histoire qui fait que le bureau est réservé, il est interdit à l'autre. Il se trouve que j'ai une étudiante qui faisait sa thèse avec moi sur ce qu'elle a appelé le village informatique en Afrique, au Sénégal. Et elle a raconté des choses magnifiques sur le bureau. C'est-à-dire qu'elle travaillait dans un endroit où on devait faire des factures, des choses comme ça. Et à tout bureau, à tout pupitre, il y avait toujours deux chaises. C'était une chaise pour le visiteur. Parce qu'il n'est pas pensable qu'on ne puisse pas passer dans le quartier où votre cousin travaille, ou votre belle-fille, etc., sans aller lui rendre visite.
Ah, c'est une autre approche du bureau, une approche conviviale.
Et la rentabilité était tout aussi bonne que si ça avait été fermé, interdit, bouclé dans un chronomètre, etc. Et j'ai trouvé ce village informatique dont elle a montré comment ça fonctionnait tout à fait intéressant justement par rapport à cette histoire de bureau. Et dans le fond, c'était déjà annonciateur de ce dont je parle à la fin du bouquin, c'est-à-dire « et si maintenant on s'allongeait ?» Ce que les jeunes n'ont pas oublié de faire. Et en fait, les étudiants, la majorité, majorité travaillent sur leur lit, allongés, l'ordinateur sur les genoux.
C'est ça, et le bureau, on y reviendra, c'est celui
ils
de notre ordinateur.
Ils ressemblent beaucoup à des scribes, souvent avec
la
tablette
allongée,
sur les cuisses. Voilà.
Et la tablette sur les genoux, lit tablette maintenant. Ouais. Le bureau, on le comprend, retrace vraiment beaucoup des évolutions de nos sociétés. Il y a aussi, on y viendra, l'arrivée des secrétaires, des femmes au bureau. Tiens, secrétaire, c'est aussi un mot pour dire
oui,
bureau.
Monsieur.
On va évidemment y revenir autour de la question pourquoi et comment l'humanité s'est mise au bureau pour le meilleur, mais aussi pour le pire et jusqu'à quand. On continue donc de s'interroger avec vous, Pascal Dibi, autour de votre ethnologie du bureau. Ouvrage dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs et auditrices, un exemplaire à vous offrir. Si vous nous le demandez depuis votre bureau, assis, couché, allongé, par mail ou sur notre page Facebook, histoire de se distraire un peu, on écoute Archimède sur RFI, la chanson pour toi qui peine au bureau.
Voir Acapulco où je sirote pour ton info un petit mojito. Toi qui peines à l'usine, pense à Cuba et ses plages divines où je m'envoie pendant que tu trimes un petit cohiba.
Chanson assez gonflée d'Archimède sous le soleil de RFI, ça vous plaît parce qu'elle dit
oui, ce que j'aime c'est l'idée de peiner parce que c'est effectivement l'idée qu'on a du travail finalement, c'est-à-dire que le travail est toujours difficile et d'ailleurs on doit gagner la vie, la sueur de son front, enfin il reste comme ça un petit peu des séquelles de ce que c'est que travailler. En réalité le bureau va changer énormément les choses parce qu'il va temporiser le travail, il va l'inscrire...
Temporiser, c'est-à-dire l'inscrire dans le temps...
Dans le temps et dans un nouveau système de rythme. Et notamment, il va mettre la société au pas. C'est-à-dire qu'on va aller à des heures de bureau, on l'utilise aujourd'hui. Il a fallu le bureau pour pouvoir le dire.
Bien, sur les heures de bureau.
Et donc, il y a un texte formidable après la Révolution française qui raconte que les fonctionnaires commencent à être très importants et qu'ils arrivent à désheurer Paris.
Désheurer.
C'est-à-dire faire sortir les Parisiens de leur système traditionnel d'horaire. Et en fait, on commence à arriver au bureau vers 9h, on s'arrête pour manger entre midi et 2, et on sort du bureau vers 6h. Ça va changer complètement les systèmes d'alimentation dans la capitale. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on vit à l'heure des bureaux. Et il est peut-être déjà arrivé de rentrer dans un bureau qui allait fermer et de vous faire entendre dire par le monsieur ou la dame qui était à l'intérieur... Vous voyez bien que je suis fermé.
Vous voyez bien que je suis fermé.
Oui, c'est ça qui est magnifique.
Absolument.
Quoi.
Sauf qu'aujourd'hui, les horaires de bureau s'étendent aussi.
Absolument.
Hein, que ça dure plus longtemps, que c'est moins... ça s'étend.
Oui, mais il y a de moins en moins de bureaux. C'est-à-dire qu'on vous dit, envoyez-nous un mail.
C'est ça. Et on peut travailler chez soi et donc on n'est jamais fermé.
Donc à n'importe quelle heure, même la nuit, vous pouvez travailler et demander quelque chose au bureau. Mais en réalité, ça n'a rien à voir parce que je crois qu'il y avait aussi ce rapport très particulier entre le bureaucrate et son pouvoir. Positif, hein, pas forcément négatif, de pouvoir déblayer des choses ou les transformer ou faire avancer le dossier. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe de se retrouver devant une machine qui vous ouvre certains portails, mais qui en réalité ne vous répond pas, ne vous fait ni chaud ni froid, vous fait plutôt froid dans le dos qu'autre chose.
Oui, donc il vaut mieux avoir quelqu'un, même un bureaucrate, un vrai quelqu'un en face de soi et derrière son bureau. Alors, autour de la question, justement, comment et pourquoi nous sommes-nous assis au bureau autour de votre ouvrage, hein, Pascal Diby, Ethnologie du bureau. Nouvelle question pour vous sur l'importance du bureau, le meuble, hein, ou pas. Nouvelle question soulevée par ma consoeur Mathilde Fontès du mensuel Science et Vie.
Moi, je m'interroge au sujet de finalement du bureau, mais dans le sens meuble du terme. On voit plein de tentatives de travailler allongé dans l'herbe quand on est étudiant, de travailler dans son lit quand il est tard. Est-ce que finalement c'est possible? Est-ce que finalement c'est possible de se concentrer sur ce meuble? Est-ce que la symbolique du meuble nous a pas complètement obligés à garder ce bureau, ne serait-ce que pour les échanges avec les autres, mais aussi pour sa concentration personnelle? Voilà, je voulais vous poser cette question étrange sur le meuble bureau.
Que répondez-vous à cette question étrange sur le meuble? Est-ce qu'il nous faut un meuble bureau?
C'est la question, c'est-à-dire que oui, effectivement, le meuble, ça permet de se retrouver dans des conditions, je dirais, de confort suffisantes, de façon à travailler sans difficulté. Et c'est vrai que depuis vraiment les années 70-80, l'ergonomie a pris toute sa place. Et aujourd'hui, aller dans un bureau, dans un établissement de grande envergure, c'est pratiquement un peu comme rentrer dans un hôtel, c'est-à-dire que tout est propre, les fauteuils sont agréables, la lumière a été pensée, il faut se rendre compte qu'on peut y aller. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est de pouvoir aller au bureau et y aller en chemise, d'une certaine façon. Et la température est autour des 21-22 degrés. L'a été jusqu'au jour où les femmes se sont plaintes parce que cette température était trop basse et que les femmes avaient toujours froid dans les bureaux. Et on a découvert que la base même de la référence de la température dans le bureau était faite pour un homme de 40 ans qui faisait 1m70 et qui avait besoin de 21-22 degrés. Or, on s'est rendu compte par la suite, en étudiant quand même le confort des femmes, c'était toujours 24-25 degrés où elles commençaient à être bien. Donc, vous voyez comment on fait des choses quelquefois, parce que derrière, vous avez aussi toute cette révolution extraordinaire, la climatisation. Vous vous rendez compte, l'idée américaine qu'on allait pouvoir tempérer l'intérieur des maisons, c'est-à-dire désirer le temps qu'il fait à l'intérieur de chez soi. Mais il faut une société à glaçons pour y penser déjà.
Absolument. Et puis, ça montre vraiment toute l'évolution. Vous avez parlé des femmes aussi.
Bien sûr.
Évidemment qu'il y a aussi l'arrivée des femmes, l'arrivée des secrétaires. Encore là, on joue sur un terme, secrétaire c'est un meuble, et puis secrétaire c'est un secrétaire et une secrétaire. Et ça illustre aussi un monde, vous le dites, qui va très très vite. On invente la sténo,
absolument.
Et ce sont les femmes qui sont les sténos.
Et la sténo, c'est pour aller plus vite. Et donc, tout ce qui est fait au bureau, c'est pour accélérer le temps. Donc, quand elle parle effectivement de la concentration possible, effectivement, il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est d'aller plus vite, toujours plus vite, encore plus vite. Alors, l'intelligence artificielle est en train de prendre le relais. Donc, on va se débarrasser des tâches les plus ennuyeuses, comme de recopier des lois, des factures, des choses comme ça. Mais on ne s'en débarrasse pas complètement, parce qu'en réalité, on est en train de les confier. Et voilà, et poser la question du télétravail. Est-ce que c'est parce que vous serez en télétravail que vous ferez des tâches qui sont subalternes, qui sont secondaires? Et la question, elle est vraiment là. C'est-à-dire que pour les cadres, il n'y a jamais eu de gros problèmes. Ils ont toujours pu venir à moitié au bureau, puisqu'ils disaient travailler, produire des rapports, etc. Mais pour les petits fonctionnaires ou les petits employés, ça a toujours été beaucoup plus compliqué parce que c'est la présence qui compte. Et aujourd'hui, on voit bien dans l'histoire du télétravail que la question, l'inquiétude des chefs d'entreprise, c'est de ne pas pouvoir contrôler leurs employés.
Et oui, parce qu'au bureau, on contrôle. Hein. Il y a un contrôle...
C'est une vieille histoire absurde.
Absurde, selon vous, il n'y a pas besoin de contrôler le travail des gens.
S'ils sont des adultes, on ne peut pas leur faire confiance, leur demander pour le lendemain de faire le travail que l'on demande, qu'ils le fassent à 4h, à 5h, à 6h, ça n'a pas d'importance. Si. Alors ça a été aussi une sorte de, je dirais, d'histoire qui a été inventée à la grande époque des années 1860 à peu près, où en fait, il y avait cette vision panoptique du monde, c'est-à-dire qu'on voulait absolument pouvoir surveiller tout le monde. Bon, maintenant,
surveillance.
Qu'est-ce qui a pris le relais? C'est l'informatique, c'est la cybernétique. Mmh. On est surveillé du matin au soir, on sait très bien où vous avez été faire vos courses, à quelle heure, ce que vous avez dit à un tel, etc. Donc ça y est, on est rentré dans cette surveillance complètement. Donc il ne faut pas penser que le bureau serait le dernier endroit où les gens essayent d'échapper à cette surveillance. Mais il n'empêche que la télésurveillance ou le télétravail aujourd'hui, plus exactement, c'est une vraie question. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore de syndicat, que les gens ne peuvent pas se défendre, qu'on peut leur demander...
Qu'on est isolé, finalement, là, c'est le mauvais côté.
Et qu'on est complètement dans la dépendance de celui qui vous commande quelque chose pour le lendemain matin, comme par hasard, vous êtes obligé d'y passer la nuit. Alors, il faut savoir aujourd'hui qu'il y avait, avant le confinement, il y avait déjà 250 000 personnes qui étaient en télétravail. C'était essentiellement en milieu rural, des femmes avec des enfants et qui travaillaient la nuit. Et une ligne en télétravail sur Internet, c'est moins d'un euro pour écrire. Ce qui rapporte le plus, ce sont des devis de plombier ou des choses comme ça, 36 euros. Donc ça veut dire qu'on arrive à gagner 50 ou 100 euros en travaillant toute la nuit, etc. Donc là, il y a une espèce de on appelle ça le prolétariat du clic.
C'est ça, une nouvelle prolétarisation du clic.
Prolétarisation qui est en train de monter. Et il faut vraiment faire très attention à ça, parce que tout le monde n'est pas dans l'optique joyeuse d'avoir une polygamie industrieuse, c'est-à-dire d'avoir plusieurs endroits où on va travailler. Les générations qui viennent sont rentrées là-dedans. Ils ne voient pas l'intérêt de faire tout le temps le même travail. Et tout le temps au même bureau, en tout cas, au sens dans la dépendance, si vous voulez. Donc là, il y a des choses qui sont en train de changer fondamentalement, qui est la relation au travail et la relation à la production. Mais je crains que le travail ne s'impose à la place du divertissement, pas au sens marchand du terme, mais de la possibilité de pouvoir atteindre la vacuité à travers ce qu'on appelle des vacances, c'est-à-dire ces moments où on ne travaille pas et où on se régénère, en fin de compte.
De l'importance d'avoir un bureau pour prendre des vacances et
s'éloigner
du bureau.
Les curés avaient inventé la récréation. Eh bien, la récréation, ça vient effectivement de cette idée qu'il faut être à un moment donné et avoir une certaine vacuité pour pouvoir se refaire.
Je vous propose une petite récréation, justement, Pascal Diby, une petite vacance sonore qui nous fait remonter aux années 2000. Hein. Avoir son bureau ou le partager avec d'autres, ça aussi c'est une grande question pour tous les travailleurs en col blanc que nous sommes, de plus en plus nombreux et nombreuses sur la planète. Alors avant de s'intéresser à l'avenir et peut-être à la fin du bureau, comme vous le disiez, par le télétravail, avec tout ce que ça implique de positif et négatif. Petit retour donc dans les années 2000 avec un extrait de l'inoubliable série Caméra Café de Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. Quand il faut partager son bureau, toute la question est de savoir avec qui.
Vous tombez bien tous les deux, je voulais vous voir.
Vous allez recevoir pendant quelques temps une personne chargée de faire un audit de notre entreprise. Et vous connaissez comme moi le manque de place dont nous souffrons.
Bah ouais, 4 mois que j'ai mis avant de quitter mon placard à pygmée là, pour avoir un bureau correct.
Ah, correct, plus que correct, dis donc, t'as la plus belle vue de l'étage avec ta baie vitrée.
Ah, mais tu me grattes sur les mètres carrés. Hein.
Ah, attends, ça se mesure. Hein.
Je peux en placer une. Donc, étant donné, et vous venez d'en convenir, que vous avez les meilleurs bureaux de l'étage, l'un de vous deux va devoir faire de la place, redécouvrir les joies du partage. Hein. Vous pouvez très bien accueillir une deuxième personne dans votre bureau. Je voulais choisir lequel.
Je te vois venir, là. Il n'y a aucune raison pour que ça soit moi qui me tape le casse-couille. Aïe, putain, mais t'es con ou quoi?
Mademoiselle?
Excusez-moi, je cherche messieurs Dumont et Convenant, si vous voulez.
Convenant et Dumont, voilà, c'est nous. Enfin, c'est moi.
Je suis la nouvelle consultante. Carole m'a dit que c'était à vous que je devais m'adresser pour mon bureau.
Oui, eh bien voilà, je vais vous accueillir dans mes appartements.
Oui, attends, moi je vous propose une baie vitrée avec une très belle vue sur toute la ville. Enfin, je sais pas, c'est à vous de choisir.
Oui, mais enfin, c'est sympa, mais un peu idiot de vouloir te sacrifier à tout prix, Hervé. D'autant que t'as des registres d'entrée et de sortie qui mesurent 2 mètres. Faut que tu les étales. Faudriez pas qu'il travaille avec ça sur ses genoux, quand même.
Ben non, ça m'embêterait de vous faire travailler comme ça.
Voilà, donc le problème est réglé. Ça sera donc dans mon bureau.
Très bien.
Mais j'y pense, Jean-Claude.
Oui.
Et quand ta femme te laisse les gosses, tu sais quand elle va faire les courses? Parce qu'il a 3 très beaux enfants et un 4e qui est en route.
Félicitations.
Ben ouais, c'est vrai. Quel beau couple ils font.
Alors, ce problème de bureau, c'est réglé?
Oui, je crois que c'est réglé, oui.
Eh bien, écoutez, puisque c'est charmant, messieurs me laissent si gentiment le choix, je vais choisir. Hein.
Parfait.
Eh bien, je crois que je vais me laisser séduire par la baie vitrée de Monsieur Dumont.
Ouais! Ouais! Ah, c'est un très bon choix. Écoutez, c'est une vue, c'est... Non, c'est bien.
Bon, ben ça c'est fait. Ah, Hervé, je vais vous envoyer quelqu'un pour transporter vos affaires dans le bureau de Jean-Claude.
Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai gagné? Mais non, du coup, on va faire ménage à deux. Tu viens chez moi, dans mon bureau.
Ah non, jamais. Ouh là là, non.
Ouh là là, la vie de bureau partagée. Vous voulez réagir sur ce sketch du Caméra Café et aussi sur ce que ça ouvre aujourd'hui, les open space et ce genre de choses.
Confirmer d'abord que quand on a son bureau, on est très chatouilleux sur le fait qu'on veut vous déplacer et qu'on voudrait vous le prendre. Ouais. D'un seul coup, il y a un sentiment comme ça d'espace qui vous appartient et on n'aime pas changer de bureau. Or là aussi, c'est une mentalité qui est en train d'évoluer. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers ce qu'on appelle un flexi-bureau, donc quelque chose de plus flexible. Et La perte se produit quand vous êtes en coworking ou en open space plutôt. On commence par l'open space, c'est-à-dire l'espace ouvert.
Voilà, plus de cloisons.
Et là, je dois avouer que j'ai eu des fonctions à l'université dans un service de culture. Et à la place, à côté de mon bureau, j'avais mon bureau à un endroit, mais il y avait l'open space. Et pour moi, c'était très étrange de trouver quelqu'un devant mon propre poste de travail le matin, et je ne savais pas comment m'en dépêtrer. Et j'étais très mal à l'aise.
Parce qu'en fait, vous vouliez récupérer votre bureau.
Ben, je pensais que mon ordinateur, où je pouvais envoyer des mots, était à moi. Mais en réalité, non, il était à tout le monde. Et vous faites un code, vous entrez, vous avez vos trucs. Mais il y a comme ça un problème de dépaysement spatial.
Qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Mais oui, parce qu'on a quand même besoin de son espace.
Ben, je crois que c'est la question de la niche. Enfin, une niche écologique, on a tous envie de marquer un peu ces espaces. Ça peut être juste soit par une plante verte, comme ça se fait beaucoup, mais ça peut être simplement par la présence d'un stylo, d'un truc comme ça. Alors les gens sont prêts à être de plus en plus dans un espace dépouillé qui n'est pas à eux, où dans le fond la vie c'est pas important, le matériel ne compte pas. Mais c'est très complexe de se retrouver effectivement dans un univers où finalement vous n'aurez plus de repères. Et ça c'est compliqué. Ça tient effectivement un peu des transformations profondes, hein, comme, si vous voulez, la grande transformation anthropologique de nos sociétés, ça a été le passage des enterrements traditionnels à la crémation, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'une vie qui ne peut pas être repérable dans l'espace ? Ben, vous vivez quelque chose à cet ordre-là. C'est-à-dire que ne pouvoir pas se repérer dans un endroit où vous dites « passez au bureau, vous ne saurez jamais où vous trouvez », ça pose des vrais problèmes psychologiques.
Au fond, quand on s'intéresse à cette question du bureau, il y avait la question du contrôle, de la puissance des assises, d'une norme, d'un contrôle grâce au bureau. Oui. Mais s'il n'y a plus de bureau où on peut mettre la photo de ses enfants ou un pot de fleurs, s'il n'y a plus son bureau, son lieu, ça pose question aussi.
Ça pose question. Et en même temps, avoir son bureau, c'était kafkaïen. Les bureaux étaient des espaces absolument introuvables, réservés, fermés. Donc, tout est possible. Mais je constate quand même qu'aujourd'hui, la vie de bureau n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a été sans doute jusque dans les années 50. Hein, même une génération a une vie de bureau. En plus, moi, je suis universitaire, donc le bureau, il est ouvert, hein, c'est depuis longtemps.
Allez, nous, on a choisi, comment dire, de passer par le deuxième bureau. Ah. Vous connaissez l'expression, évidemment, chers amis auditeurs et auditrices, aussi le deuxième bureau à l'africaine sur RFI. C'est tout de suite avec Bissau Nabisso. Deuxième bureau.
Ah ouais. Mais t'as pas le gris là. Massa et le gris. Regarde qui ça est. Faut pas te péter. Faut pas te péter. La merde. Oh, y'a quoi, y'a quoi, ma cato. La petite motion, la libanga, coco. Aïe, que sonia.
Clotaire a une femme nommée Philomène. Elle est dure avec lui souvent. Elle lui dit. Trois comptes, ta femme devient sa seule mère.
Laisse pas ton homme se défiler, philo. Ne tourne pas le dos à clo-clo. Oui, yeah, yeah. Maman, ne tourne pas le dos au gigolo. C'est comme ça qu'on appelle Clotaire. On file, file à la congolaise Clotaire. On file à tout va, à 100 à l'heure. Le site d'un seul bourreau. Clotaire excelle le recrutement de secrétaire au bureau.
Quand il s'agit de femme, on l'appelle Clotaire. Trouve que sa femme a vieilli, elle a du ride. En plus, maintenant, elle a du vide. Lui veut se refaire une jeunesse. Pourquoi pas la secrétaire qui lui glisse des mots doux, qui lui fait des caresses, l'allume avec une mini jupe. Il pète un massoco. Il trouve qu'il se sent plus jeune à cette déco.
Moi aussi, j'en ai de bonnes sur Clotaire. Perçant, pas 100%, y'a rien à faire, il me dit. Moi, avec les zélés, je suis pas sectaire. Je rends service coutin, je suis bureaucrate, il faut des secrétaires. J'ai lui, c'est plein de demi-sœurs, demi-frères, Clotaire. Il a des gosses dans tous les misères. Les mises flair, le frère et son bis l'air. De rien, église Clotaire, il a le sang du sacrifice.
Bisso, Nabisso chante en lingala et en français le deuxième bureau, sans commentaire ou avec commentaire?
Non, avec commentaire. Il y a un très beau film de Jean Rouge qui s'appelle Petit à Petit, où finalement le deuxième bureau part avec le propriétaire de l'immeuble qu'il vient de faire construire, et c'est formidable parce qu'il lui fait une cage anti-lion, etc. C'est les amours comme ça ouverts, et le bureau reste central. La fille passe son temps à taper à la machine, même au bord de la mer, les pieds dans l'eau, etc. Et c'est un film qui est très 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 drôle.
Et ben de Bisso Nabisso jusqu'à Jean Rouge, tant mieux, tout ça autour du bureau, autour de votre ethnologie du bureau, Pascal Dibi, dont je rappelle que nous avons un exemplaire de cet ouvrage à vous offrir, chers amis auditeurs et auditrices, Ethnologie du bureau aux éditions Métayer. Alors, autour de la question comment l'humanité s'est mise au bureau, la grande question qui nous reste maintenant, c'est jusqu'à quand? Un de nos auditeurs, ils sont nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux, un de nos auditeurs nous dit mais dans combien de temps les bureaux vont-ils disparaître pour faire place à la technologie mobile?
Ben, ça arrive doucement. Déjà, les constructeurs, maintenant, les promoteurs savent très bien que c'est pas une obligation que les bureaux continuent. Donc, on construit des immeubles avec essentiellement des plateaux où on pourra aménager éventuellement des habitations et non pas des bureaux. Alors qu'avant, c'était l'inverse. On construisait des immeubles d'habitation avec la possibilité de mettre des bureaux. Mais on se rend bien compte qu'il y en aura de moins en moins. Il en restera, bien sûr, mais il va rester surtout des lieux de prestige. Exactement, c'est l'histoire que je raconte, finalement.
Mais finalement, on remonte en arrière. Voilà. Les bureaux ne seront plus que, effectivement, des lieux de prestige. Voilà. Vous parlez du bureau du roi.
Oui, ce sera des sièges sociaux, voilà. Des sièges sociaux au bord de grandes avenues. Si ce n'est pas les Champs-Élysées, ça sera l'avenue de France ou d'autres choses comme ça.
Mais qu'est-ce que ça dit de nous? Vous dites « brève histoire », c'est le sous-titre de cet ouvrage. Oui, oui. « Brève histoire d'une humanité assise ». Ça veut dire quoi? Qu'on sera moins sédentaire au travail, moins assis?
Je pense qu'on va être beaucoup plus multicarte, beaucoup plus nomade, que les gens vont changer de métier beaucoup plus rapidement, comme c'est déjà le cas aux États-Unis, où les gens peuvent faire un break, devenir plagiste, et puis redevenir après ingénieur spécialisé dans quelque chose, etc. Donc, je crois que là, il y a moins d'attaches, effectivement, traditionnelles à la marque qui vous a élevé comme un enfant, au sein de l'entreprise, etc., etc. Et je pense aussi que le télétravail va changer les choses, c'est-à-dire que les possibilités d'Internet et en plus de l'intelligence artificielle, plus les robots. Il ne faut pas oublier les robots qui, d'ici à 2030, vont faire pratiquement 20% des tâches de bureau. Même d'ailleurs des petites tâches de pouvoir se déplacer dans les couloirs, rapporter des choses, etc. Ça va être de plus en plus au point. Et je crois que les générations qui viennent sont totalement prêtes à les accepter, à les entendre, à collaborer avec un robot. Moi, j'en rêve. Si j'avais un robot de ménage, je serais aux anges. J'ai déjà un e-robot qui fait le ménage tout seul.
Un petit aspirateur.
Oui, mais c'est merveilleux. C'est extraordinaire.
C'est marrant que vous disiez ça, Pascal Dibi, parce qu'on sent bien dans votre ethnologie du bureau à la fois un grand attachement aux valeurs sociales, à la question justement de la norme, du contrôle, de la puissance de certains. Et vous le dites aussi pour la perte du bureau, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de syndicats, il n'y aura plus de collectif, parce que le bureau, c'est aussi collectif.
C'est ça la question, bien sûr.
Donc, on est toujours dans du... C'est ni plus ni moins, on est dans du qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd.
Oui, je pense, je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'idée de travail qui est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans le travail, on y sera toujours, on n'y sera jamais, on y sera constamment. Un peu comme les hommes d'affaires qui sont à la fois dans un yacht à Saint-Tropez, en train de gérer des flux de je ne sais quoi, etc.
Sauf qu'on n'est pas tous des hommes d'affaires dans
les
yachts.
Non, on n'est pas tous des hommes d'affaires, on sera plus non plus des garçons de bureau. Il y en aura toujours, je pense qu'il y aura toujours des espaces.
Ou des filles de bureau, des secrétaires.
Ou des secrétaires, exactement. Mais là aussi, il va y avoir une égalité de plus en plus grande entre hommes et femmes. À un moment donné, on va arrêter quand même peut-être de penser qu'il y a une différence pour être dans un bureau entre un homme et une femme, etc. C'est en train de passer et on va tout doucement vers une androgynisation du monde. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une représentation androgyne du bureaucrate ou de la personne qui va dans les bureaux, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que le rapport homme-femme va finir par être, j'espère, un jour réglé. Mmh. Pour l'instant, ça cogne encore.
Ah oui, ça coince encore.
Ça coince encore. Mais j'espère que ça va déboucher vers des choses beaucoup plus pacifiées et que le bureau, dans le fond, ça sera toujours utile parce qu'il faut bien se réunir. Mais vous voyez bien que le télétravail qui se met en place, ça va être deux jours chez soi et trois jours au bureau.
Et avec puis le, en le bureau... plus
bureau permet aussi de sortir.
C'est ça, bah d'avoir un rapport social, d'avoir un lien social, de sortir. D'autant que devant notre ordinateur, on appelle toujours ça un bureau, hein, alors que ce n'est pas du tout un bureau, on range le bureau de notre ordinateur. Ouais. C'est un desk, une autre forme de bureau. Ouais. Autour de la question pourquoi faire l'ethnologie du bureau, allez, je propose, on a encore le temps, un dernier éclairage à fond sur le bureau. C'est celui de l'anthropologue David Le Breton, à qui l'on ne peut pas reprocher d'être sédentaire ni assis. Il a beaucoup travaillé sur le corps et sur la marche, et pourtant, il adore son bureau. On l'écoute.
Je dirais que pour moi, le bureau n'incarne pas du tout une humanité assise. C'est au contraire le lieu de l'envol de la pensée, de l'imaginaire. C'est là où l'on va s'installer pour écrire, pour lire, pour noter des idées, parfois pour rencontrer les étudiants, pour rencontrer des collègues. Pour moi, donc, c'est un tremplin, finalement, vers l'immensité du monde. Un bureau, c'est un peu comme un livre. C'est une invitation au chemin, une invitation à la route, une invitation à la rencontre, voilà.
J'imagine que c'est un peu votre cas aussi, Pascal.
Non, mais David a raison, mais nous, nous n'avons pas des bureaux, nous avons des ateliers, c'est-à-dire que véritablement, c'est des lieux où l'on crée, où l'on pense, où l'on s'imagine, et le bureau, pour moi, c'est un espace géologique mouvant, où les choses sont effectivement toujours changeantes, donc c'est plus
joli. Vous n'êtes pas enchaîné à votre bureau, et vous n'y serez jamais.
Pour moi, le bureau est plus beau qu'un bord de mer, quoi. C'est vraiment quelque chose où le buvard m'imprègne effectivement, définitivement, vers d'autres copies, quoi.
Merci beaucoup, Pascal Diby. Vous avez, j'imagine, d'autres ouvrages en préparation après le bureau, après la chambre à coucher, après la porte et les seuils.
Oui, ça vient. J'en ai beaucoup.
Devant votre bureau.
Sur mon bureau.
Sur votre bureau. En tout cas, debout, assis ou allongé, je ne saurais trop vous conseiller, chers amis auditeurs et auditrices, la lecture donc de l'ethnologie du bureau, Pascal Diby, paru aux éditions Métayer et sous-titré Brève histoire finalement, d'une humanité assise et dont nous avons, je vous le rappelle, un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Merci Pascal Diby et bon retour devant votre bureau.
Oui, pas trop longtemps quand même.
Pas trop longtemps, absolument. C'est fini pour aujourd'hui, mais nous sommes toujours disponibles en podcast à volonté sur vos applications favorites. Au plaisir de vous retrouver en direct demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Pour ne pas perdre le nord ou le sud, nous suivrons une boussole pour l'après, celle des professeurs du Collège de France avec qui nous partagerons quelques-unes des leçons de la pandémie que nous traversons, que nous apprend la pandémie pour le pire, mais aussi qui sait pour le meilleur. À demain, chers amis auditeurs et auditrices, surtout restez curieux, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du journal.